l'information est un élément de connaissance. Alors, soyons des citoyens mieux informés. Radio Mandeléo, c'est l'heure du journal.
Nous sommes lundi 13 avril 2026. Merci de nous avoir choisis pour vous informer ce matin à 6h passées des 15 minutes à Bukavu. C'est l'heure de vous informer sur Radio Mandeléo. D'abord, les titres de cette édition du journal. À la une de l'actualité, dans cette édition du journal, les déplacés qui fuient les affrontements entre les troupes de l'AFC M23 et les Ouazalendo, notamment dans plusieurs villages des hauts plateaux du territoire de Calais, vivent les calvaires sur la route, tout comme dans les zones d'accueil comme Anyamukubi. Nous dira l'un d'eux que vous entendrez dès le début de cette édition du journal. Au sommaire également, la province du Sud Kivu a enregistré 4607 cas de choléra, dont 67 décès au cours du premier trimestre de l'année 2026, selon la division provinciale de la santé DPS. La zone de santé des Fizi vient en tête avec 1447 cas, à en croire les chiffres rendus publics. Et en sport, championnat de la Linafoot 2e division, l'OC Mungano finit la manche aller sur le podium, juste derrière l'US Okozaki de Butembo, après les forfaits infligés à ma commune de Lubero, suite à une plainte déposée par les Chalalilés autour de la non-qualification d'un joueur. Voilà tout pour les menus de l'actualité ce matin, Radio Mandeléo en plusieurs lettres, le journal en trois titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue.
Ce journal vous est présenté par Héritier Boroto.
Direction territoire de Calais pour commencer cette édition du journal. Le week-end a de nouveau été agité sur plusieurs lignes de front entre des combattants Ouazalendo et les troupes de la FC M23 dans plusieurs villages des hauts plateaux du territoire de Calais au sud Kivu. C'est particulièrement dans la journée de samedi 11 avril 2026 à la suite des affrontements sur l'axe Katasoma, précisément à Nyamaro, Nyawaronga et Nyamugari dans les villages Mirangu en groupement de Mubuku ainsi qu'à Mwamidjui dans les villages Kusisa, un groupement des Iralo dans la chefferie de Bouavou, des combattants Ouazalendo serrés dans les collines surplombant les trois agglomérations, alors que leurs adversaires sont concentrés dans différents endroits, prêts à riposter contre toute attaque ou alors à lancer l'assaut, explique des sources dans la zone. Entre-temps, les mouvements des populations sont toujours intenses dans différents endroits. À la quête des zones plus ou moins stables, les déplacés font face à plusieurs difficultés sur la route, tout comme dans des zones d'accueil. On écoute les témoignages de l'un de rencontrer Anyamukubi après avoir fui son village dans les hauts plateaux.
Vita ilipokuwa Lumbishi niliamua kukimbia nikakimbilia Shanje. Pafika Shanje nikaona maisha inakataa.
Lorsque la guerre a atteint Lumbishi, j'ai fui à Shanje. Mais à Shanje, la vie est devenue très difficile. Voilà que je me retrouve à Nyabibwe. Là-bas, c'est la guerre et l'incertitude du lendemain. Les gens fuient et laissent tout derrière eux. Vous voyez des enfants et des femmes qui fuient juste pour sauver leur vie. Les gens sont morts et des maisons incendiées ou détruites par des bombardements intenses. Nombreux sont morts, noyés dans des rivières et beaucoup d'enfants égarés dans la brousse. Ici où nous sommes, c'est juste la survie. Nous demandons aux autorités de nous venir en aide. La nourriture et les vêtements, oui, mais nous voulons la fin de la guerre car nous souffrons énormément.
Pendant ce temps, les personnes qui détiennent encore des effets militaires ou qui auraient des informations sur leur emplacement dans les quartiers Kafou en commune de Kadutu sont appelées à les remettre auprès des autorités compétentes. Ceci dans les soucis de mettre fin au cas d'insécurité causé par des bandits armés dans cette partie de la ville de Bukavu. L'appel est de la chef du quartier Kafou Didienne Mouati au cours d'un meeting populaire tenu au rond-point Sozam à l'occasion des travaux communautaires d'Isalongo à Alain Kabika.
Cette tribune a été l'occasion pour les habitants de cette entité de déplorer la persistance des cas d'insécurité dans plusieurs avenues et qui aboutissent à la mort d'hommes et à la perte des biens des paisibles citoyens. Pour juguler cette insécurité, Didier Mouati appelle les habitants de son entité qui détiendraient des effets militaires à les remettre. Et les appelle également à dénoncer des bandits qui se cachent au sein de la population avant qu'ils ne soient traqués par les forces de l'ordre. Didier Mouati en parle.
L'objectif, c'est de réunir nos administrés, de savoir tout ce qui va et tout ce qui ne va pas. Parce que ces derniers temps, dans notre quartier, nous assistons à des braquages à répétition. Il y a des personnes de mauvaise volonté qui utilisent des armes blanches pour voler les biens des paisibles citoyens. C'est pour cela que nous avons demandé à notre ministère de dénoncer tout cas suspect et à ceux-là qui détiennent encore les effets militaires comme armes, tenues militaires, de les déposer à qui détourra. Moi, en tant que chef de quartier, j'ai comme projet prioritaire, premièrement, c'est la cohabitation pacifique et la résolution pacifique des conflits.
Les habitants du quartier Nkafu qui ont pris part à cette activité saluent les dynamismes de leur chef, surtout dans la réalisation des projets à base communautaire. Didienne Moiti a profité également de l'occasion pour appeler ses administrés à s'approprier les projets de construction du bureau du quartier, dont le lancement est annoncé d'ici quelques jours.
Et au moins 6 personnes ont été tuées, dont 5 à coups de machette et une autre lors d'un cas de justice populaire, tandis que 6 autres ont été grièvement blessées. C'est le bilan provisoire d'un drame survenu tôt le matin de samedi 11 avril 2026 au sous-village de Chaoboka à Kachusha, dans le groupement de Mitsi en territoire de Kabare. Selon le président du comité villageois de développement de Kachusha, Shukurani Munganda, tout s'est réparti de violences domestiques au sein du foyer d'un certain Boulonza Chiouguyou. Ce dernier aurait d'abord tué 2 de ses enfants à coups de machette avant de s'en prendre à son épouse également mortellement blessée dans la matinée de samedi pour des raisons qui restent jusque-là inconnues. L'information est également confirmée par le chef du groupement des Miti Chirimwami Kugomba Mambe qui condamne ces faits. Alertés par les cris des victimes, 2 voisins membres de la famille de l'auteur présumé dont son oncle paternel ont tenté d'intervenir pour maîtriser la situation. Ils ont malheureusement été attaqués à leur tour et tués sur les champs. Mesdames et messieurs, vous suivez Radio Maïndeleo à Bukavu et dans les territoires. Dans un court instant, la suite de cette édition du journal.
Chaque jour, elle se mobilise pour offrir à ses auditeurs et auditrices des informations à temps réel. Notre principale détermination, c'est de vous servir. Nous, c'est la Radio Maïndeleo. Plus et mieux pour et avec ses auditeurs.
Changeons de chapitre à présent et comme annoncé au sommaire de cette édition du journal, 4607 cas de choléra dont 67 décès ont été enregistrés dans la province du Sud Kivu au cours du premier trimestre de l'année 2026. Les zones de santé qui ont notifié plus de cas sont celles des Fizi avec 1447 cas, suivies des Ruzizi avec 547 cas, Nundu 490 cas, Uvira 464 cas et la zone de santé d'Ibanda avec 323 cas. Ces chiffres ont été rendus publics le week-end dernier au cours d'un atelier des revues Intra-Action, des activités de riposte contre les choléras au Sud Kivu, Expédé Kialo.
En quoi le chef de bureau hygiène et salubrité à la division provinciale de la santé, le docteur Jean-Claude Koulundoua, au moins 23 zones de santé sur les 34 qui comptent la province du Sud Kivu, ont enregistré au moins un cas de choléra. Il rassure néanmoins que la situation est sous contrôle grâce aux activités organisées dans différentes zones par la division provinciale de la santé et ses partenaires pour couper la chaîne de contamination. Le docteur Jean-Claude Koulundoua indique que pour réduire les cas de choléra en province, les participants recommandaient la priorisation des quelques actions qui pourraient être mises en œuvre pour le deuxième trimestre pour abaisser la courbe de la maladie, surtout dans les zones de santé en épidémie présentement. Parmi ces actions, il cite la prise en charge médicale des malades suivant la politique nationale, le renforcement de la coordination des interventions au niveau local, la détection précoce et rapide des cas et beaucoup plus des actions de prévention au niveau communautaire. Les participants ont également insisté sur la communication des risques et engagement communautaire qui doit être renforcé dans toutes les zones de santé qui sont en épidémie. Le docteur Jean-Claude Koulundoua.
Nous avons noté que jusqu'à la semaine 14, la province avait déjà notifié 4607 cas et 67 décès malheureusement. Et nous avons noté que les zones de santé qui ont notifié le plus de cas, c'est essentiellement la zone de santé de Fizi qui occupe la première place, suivie de la zone de santé de Ruzizi, la zone de santé de Nundu, la zone de santé d'Uvira. Et enfin, la ville de Bukavu occupe la cinquième place en termes de notification. Ça, c'est essentiellement pour le premier trimestre 2026. Nous avons chuté par la priorisation de quelques actions qui pourraient faire objet de mise en œuvre pour le deuxième trimestre en fonction de la dynamique de l'épidémie actuelle pour pouvoir essayer de contenir les cas.
Par ailleurs, le chef de bureau hygiène et salubrité à la DPS invite la population à observer les mesures barrières et que les prestataires des soins continuent à s'impliquer davantage malgré le contexte pour sauver des vies.
Et les autorités sont appelées à renforcer les mesures de sécurité concernant la navigation sur le lac Kivu afin de prévenir les accidents pour ainsi protéger la vie des passagers et l'économie des populations. Ceci passe notamment par les contrôles techniques rigoureux des embarcations, surtout celles motorisées, exerçant entre Calais et Ijugoma et Bukavu. Ces contrôles devraient se faire avant toute sortie en insistant sur les ports obligatoires des gilets de sauvetage, l'interdiction de la navigation nocturne et les mauvais chargements. Ce message est de la coordination de l'Organisation Solidarité des Jeunes de Calais et Ijui pour le développement à la suite du naufrage d'une embarcation sur le lac Kivu causant la mort d'au moins 21 personnes, en plus d'importantes pertes matérielles. Selon Irbin Bianjira, président de cette structure citoyenne, ces drames persistent en raison du non-respect des règles de sécurité. Il appelle à une implication des autorités, notamment à travers l'application stricte des mesures en vigueur, et recommande la sensibilisation des habitants pour prévenir les catastrophes et les accidents liés à la navigation. Irbin Bianjira en parle.
Et comme nous l'avons toujours dit, il y a un problème d'embarcation. Vous savez, quand nous avons toujours l'occasion de prendre la parole, nous interpellons toujours les services maritimes d'être sérieux dans leurs services parce qu'ils ne contrôlent plus comme il faut l'embarcation. Ce qui fait qu'il y a toujours des surchargements et ceci cause toujours des naufrages sur les lacs Kivu. Il n'y a pas de contrôle technique, il n'y a pas de port de gilets, il n'y a pas de mécanisme d'alerte en cas de danger sur les lacs. Donc le problème persiste. Nous invitons toujours aux autorités de prendre des mesures urgentes pour appliquer les propositions que nous avons toujours données afin de limiter les camps de mort toujours sur les lacs Kivu. Je pense que si le service maritime s'implique, on peut minimiser les camps de noyades sur les lacs Kivu.
Pour rappel, une embarcation motorisée en provenance du marché de Kishenyi-Sakiro en territoire d'Idjui pour la chefferie de Bouavu en territoire de Calais a chaviré en date du 8 avril dernier sur le lac Kivu. Les bilans fait état de 21 personnes mortes et noyées, dont 14 femmes et 23 rescapées. Malgré les recherches, un seul corps, celui d'un enfant, a été retrouvé, indique des sources sur place qui annoncent que les deuils pourraient être élevés dans les jours qui suivent conformément à la coutume. Et je vous reprends Alain Kabika. La délocalisation des habitants vivant dans les villages de Bouozi, groupement de Moudoussa dans les territoires des Kabarets, reste la solution appropriée et la moins coûteuse pour les épargner des dangers liés au glissement des terrains, y observé depuis plus de 4 ans maintenant. L'avis est du géologue Toussaint Mugaru Kabibentio, enseignant au département de géologie à l'université officielle de Bukavu et spécialiste des glissements des terrains, dans un entretien avec Radio Maindelo hier dimanche 12 avril 2026.
Après des premières observations des terrains à Bouozi en février 2024, il a été découvert que ces glissements est rotationnel actif qui n'a pas tendance à se stabiliser si tôt. Ces glissements est provoqué par une série de facteurs naturels avec un sol fragile en profondeur et la présence de la rivière Kamagema qui connaît des érosions. Il précise qu'au début, les glissements étaient d'une profondeur de 3 mètres, mais aujourd'hui il va jusqu'à 15 mètres. De même, la superficie s'étendait sur 3 hectares, mais à ce jour, ces glissements va jusqu'au double voire plus, ce qui confirme que la tendance à se stabiliser est moindre. Le géologue Toussaint Mugaru Kabibentio indique que la plantation d'arbres sur les sites n'est pas forcément la solution. Ces chercheurs proposent la délocalisation de la population comme solution moins coûteuse, en lieu et place des travaux d'ingénierie qui coûteraient extrêmement cher sauf si l'enjeu autour est majeur. Toussaint Mugaru Kabibentio en parle.
Pour ce qui concerne les actions qui peuvent être mises en place, il y a des gens qui pensent que si on plantait des arbres, ça peut arranger l'affaire, mais je voulais alerter quand même sur un aspect. Les arbres ne peuvent arrêter ou ne peuvent stabiliser qu'un glissement des terrains superficiels. Parce qu'ici, ce qui stabilise les terrains à partir des arbres, c'est la force d'enracinement, c'est-à-dire l'augmentation de la cohésion du sol qui va venir des racines des arbres. Je ne sais pas si vous allez planter des racines qui vont aller à plus de 30 mètres de profondeur. Et que ça n'aura pas vraiment d'impact sur ces glissements des terrains qui est vraiment profond. Mais ici, planter les arbres sur ces glissements va faire assez qu'on évite des mouvements superficiels dans ces glissements. Parce qu'il y a le grand mouvement qui est profond, mais il y a aussi des mouvements superficiels le long des berges de la rivière. Sur l'escarpement principal, il y a moyen de stabiliser ces mouvements superficiels. Mais aussi pour de grands glissements comme cela, on peut décider de faire des travaux d'ingénierie. Mais comme je l'ai dit en avant, c'est des travaux qui coûtent énormément cher. C'est-à-dire qu'il serait moins cher de délocaliser la population et de laisser les glissements évoluer de manière naturelle. Encore qu'il n'y a pas de grands enjeux tout autour de ces zones là-bas pour qu'on se décide de dépenser suffisamment d'argent pour protéger cette zone là-bas. Pour moi, la grande solution serait de donner la possibilité à la population de quitter l'endroit. Laisser le mouvement évoluer de manière naturelle, le mouvement va arriver à un moment où il va se stabiliser.
Rappelons que des centaines de familles vivent déjà comme déplacées après que leur maison ait été atteinte par ces glissements dans les villages Bouozi, groupement des Moudoussa en territoire des Kabare. D'autres vivent toujours dans la zone, malgré les risques auxquels elles sont exposées dans des maisons et parcelles déjà fissurées, et voudraient voir des solutions concrètes leur être proposées pour se mettre à l'abri.
Et dans ce même chapitre, plus de 45 cas de conflits fonciers ont été enregistrés depuis janvier 2026 dans les quartiers d'Ender et en commune d'Ibanda. Ces conflits sont générés par des personnes qui vendent une parcelle, une maison ou un autre bien à plus d'une personne avec des documents souvent falsifiés. C'est ce qu'indique le chef des quartiers d'Ender et le pasteur Albert Miga Bunyagaza dans un entretien avec Radio Mindelo hier dimanche 12 avril 2026. Celui-ci ajoute que ces conflits sont à la base de plusieurs frustrations et divisions au point de fragiliser la paix et la cohésion sociale dans cette partie de la ville de Bukavu, tout en mettant en garde tous ceux qui s'évertuent des pareilles transactions. Albert Miga Bunyagaza rappelle qu'une réunion a déjà été tenue avec les commissionnaires de la ville et des instructions claires ont été données. Il appelle les uns et les autres à plus de prudence et prévient que tout celui qui sera attrapé dans de telles manœuvres subira la rigueur de la loi. On l'écoute.
Entre autres, 47 dossiers fonciers. Nous mettons encore une fois en garde ces gens-là qui font la vente double des maisons, des parcelles, ce qui crée beaucoup de problèmes dans notre société. Nous voulons franchement montrer à tous ceux-là qui se donnent à cœur joie en train de vendre la parcelle deux fois, les maisons deux fois, les véhicules deux fois, ça ne passera pas inaperçu. Et nous voulons que ces gens puissent créer la convivialité qui suscite une relation favorable et agréable à notre population, avoir la volonté d'utiliser leur vie quotidienne pour des bonnes choses, pour la stabilité de la communauté. Il y a les recommandations qui ont été données en réunion avec les commissionnaires. Nous sommes convenus qu'aucune vente sans participation des témoins ou des voisins, et avoir aussi une lettre d'avis des copropriétaires, et aucun acte de vente sans signature ou encore un sceau des chefs de quartier. Le chef de quartier est partie prenante de la vente et de l'achat des parcelles, et les commissionnaires doivent aussi avoir la carte qui est reconnue par la mairie, qui est reconnue par l'association, et même lors de démission, les services spécialisés doivent aussi être visés par les chefs de quartier.
Et changeons de chapitre. À présent, la décision de Heineken de céder ses actions dans la Bralima et de quitter la RDC est due à l'instabilité politique et sécuritaire en RDC et a entraîné la perte de l'usine de Bukavu après l'occupation du Sud Kivu par l'AFC M23. C'est ce que pense Ide Bakulu, expert en économie et finances publiques, à l'annonce de la cession de la participation de Heineken dans la Bralima au profit de Elna Holdings, une société basée à l'île Maurice. Il pense que la société Heineken a constaté un manque à gagner considérable depuis la perte de l'usine de Bukavu qui était le poumon moteur de la Bralima en RDC, d'où la décision de céder sa participation à d'autres investisseurs. Au niveau des conséquences qui découlent de cette cession, Ide Bakulu estime que si Elna Holdings adopte la même politique que la Bralima, rien ne pourra changer. Néanmoins, s'il décide de restructurer la société, cela entraînera probablement une retouche notamment sur la main-d'œuvre. Ide Bakulu au micro d'Expedia Kialou.
On peut supposer que l'usine de Bukavu, c'était l'usine la plus rentable de la Bralima. Elle l'a perdue il y a une année. Le pays est instable. Il y a imprévisibilité. À tout moment, il y a des tensions politiques, des tensions sécuritaires, des conflits qui peuvent naître à base de cette insécurité-là. La Bralima a beaucoup de difficultés. Il y a des pressions, malheureusement, politiques. Rappelez-vous la dernière session de la Bralima Bukavu. Toute la pression qu'a eu la Bralima sur les actionnaires, le DG de la Bralima a dû fuir le pays, peut-être les gens ne le savent pas, mais il avait dû fuir le pays. Il est au siège depuis que cette histoire de BDG a commencé ici.
Ide Bakulu, cette session peut avoir quelles incidences sur les activités et l'organisation de la Bralima?
Il y a beaucoup d'incidences. Hein. Bien évidemment, si la politique reste la même, si la société qui a racheté garde même politique que la Bralima, nous pouvons dire qu'il y aura moins d'incidence, mais on peut décider de restructurer. Et s'il y a restructuration, peut-être qu'on va perdre les emplois. Au cas où on fait une restriction à la baisse des emplois, l'État aussi va perdre sur le plan financier. Et même la société elle-même, sur le plan financier, voyez-vous, si elle n'a pas beaucoup de capitaux pour investir, ce sera compliqué.
Et avant la deuxième partie de cette édition du journal consacré au sport et à la revue de presse, le député national Mudekere Zanamegabe Olive appelle le gouvernement congolais à appuyer et soutenir les jeunes qui s'investissent dans les secteurs agricoles. Il a dit lors d'une conférence organisée la semaine dernière à Kindu, dans la province du Maniema, sur l'agriculture et l'environnement. Pour cet élu de Bukavu, la seule façon de créer des jeunes millionnaires au Congo, c'est de leur doter des moyens adéquats qui leur permettent à émerger dans les secteurs agricoles. Ceci en leur octroyant notamment des outils aratoires à l'instar des tracteurs et des espaces arables sur lesquels ils devront exercer leurs activités. Le député national Mudekere Zanamegabe Olive en parle dans cet extrait.
Le maïs, le banane, haricots, arachides, ça se trouve ici. Il y a tout ici au Maniema. Mais le problème, c'est les routes. C'est qu'on peut tirer de la mine, on peut l'investir dans la construction des routes, même en terre, en attendant qu'il y ait des routes asphaltées. Tout le monde, on a dit, nous allons dans l'agriculture. Fonctionnaires, hauts fonctionnaires, dirigeants, députés, ministres, chacun espace et l'opé de terre. Et comme le gouvernement va mettre à disposition des tracteurs aux jeunes entrepreneurs, aux associations, il faut donner à chaque député 10 hectares et vous donner un tracteur mis à la disposition de la population. Les députés cultivent pour lui et pour la population. Pour créer des jeunes millionnaires, on cultive, on sème. Les jours de récolte, après 2 ou 3, 4, 5 ans, on donne l'argent d'un hectare à chaque jeune. Et chaque jeune a créé son entreprise. Et c'est comme ça que ces grands pays aussi, tous nos jeunes entrepreneurs, c'est comme ça que le gouvernement va les soutenir. On forme un jeune, on le met au travail, on lui donne le capital, on le sécurise. Pendant 3 ans exonéré, après il commence à payer ses taxes. Nous encourageons le gouverneur avec cette initiative.
Mudekere Zanamegabe Olive au micro des Radio Maendeleo et merci de nous suivre en direct au stade Van Nevel de Butembo au Nord Kivu sur le www.radiomaendeleo.org. À présent, nous parlons sport.
La passion du sport, c'est sur les ondes de la Radio Maendeleo. Du lundi au samedi, retrouvez toute l'actualité sportive dans sa diversité sur la meilleure des fréquences.
À la suite d'une décision administrative, l'OC Mungano remonte au classement et occupe désormais la deuxième place au classement de la Ligue 2 de la Linafoot, zone STB. Les Chalalilés bénéficient de 9 points sur tapis vert et totalisent désormais 16 points. Expédi Diallo.
Mungano gagne par forfait 3 matchs respectivement contre Makomine de Lubero, le DC Virunga de Goma et l'AS Nyuki de Butembo. Ceci résulte de l'homologation des résultats par le comité d'organisation de la compétition après l'instruction des requêtes des clubs. Sur plainte de l'OC Mungano pour alignement litigieux du joueur Mulinda Arsène, l'AS Makomine est sérieusement frappé par l'organisateur. Le transfert du joueur en provenance de l'AS Masisi n'aurait jamais été officiellement régularisé, faute de documents des transferts valides. L'AS Makomine est reconnu coupable d'avoir utilisé un joueur dont le statut administratif est frauduleux, estime l'organisateur. L'équipe de Lubero perd au total 7 matchs, soit 21 points. Jadis classé à la première place, Makomine est rétrogradé à la dernière place avec 0 points. Cette homologation des résultats a également pénalisé l'AS Nyuki qui a perdu 4 matchs respectivement contre Sokozaki, Kapako, Mungano et Brésil pour l'utilisation du joueur Tsuka Mangobo. Mungano empoche également le forfait face à Virunga pour avoir contesté l'alignement d'un joueur frauduleux. En attente du démarrage de la phase retour, l'OC Mungano se repose tranquillement à la deuxième marche du podium.
La revue de presse, Radio Maendeleo capte, vous décrypte et vous présente les nouvelles des journaux paraissant à Bukavu et dans la capitale.
Et avec vous Myriam Mofano, les vagabondages des jeunes de la ville de Bukavu qui s'accentuent en période de crise et le meurtre de 5 personnes par machette dans les villages de Kachusha, groupement des Miti en territoire des Kabarets, font partie des sujets commentés par la presse le week-end dernier.
Débutons cette revue de presse par jumbo-rdc.info qui écrit « Actuellement dans la ville de Bukavu, il s'observe la montée inquiétante du vagabondage des jeunes dans un contexte marqué par l'insécurité, la précarité économique et la fragilité sociale. De nombreux adolescents et jeunes adultes, livrés à eux-mêmes, errent dans les rues, exposés à des risques tels que la délinquance, la consommation des drogues et diverses formes d'exploitation. Dans plusieurs quartiers populaires comme Yaouera et Kadutu, poursuit ces médias, ces phénomènes est devenu devenue visible au quotidien. Les jeunes des Évrés tentent de survivre sans encadrement, conséquence de l'affaiblissement des structures familiales et éducatives. Les acteurs sociaux contactés par Jambo RDC tirent la sonnette d'alarme, craignant que cette réalité ne compromette gravement l'avenir de toute une génération. L'un d'eux, Jean-Moreau Toubibou, indique que ces phénomènes ne se limitent pas à la pauvreté, mais traduisent également un abandon institutionnel. Il appelle ainsi à des actions urgentes, notamment le renforcement de l'éducation, la création d'opportunités de formation et la mise en place de programmes de réinsertion, conclut ce média. De son côté, CNews.info rapporte un drame survenu dans le village de Kachoucha où un homme aurait tué 5 personnes, dont le membre de sa propre famille, un voisin. L'attaque a également fait plusieurs blessés parmi les personnes ayant tenté de l'arrêter. Après son acte, l'auteur présumé a été lynché puis brûlé par les habitants en colère, portant le bilan total de 6 morts. Les circonstances exactes de cette violence restent encore floues, mais certaines sources évoquent un conflit familial lié au partage des terres comme origine probable du drame. Les autorités locales et la société civile contactée par STnews.info confirment les faits et appellent la population au calme en insistant sur la nécessité de privilégier les dialogues et les règlements pacifiques des conflits afin d'éviter de nouveaux actes de violence, conclut STnews.info. Bouclant cette revue de presse par cabaretactu.info qui écrit « La Fed, ASBL, appelle la population du territoire des cabarets au Sud Kivu à adopter des comportements responsables dans la gestion des déchets afin de protéger à la fois l'environnement et la santé publique. » Dans une déclaration signée par son coordonnateur, Gershom Baronzi, et consulté par ses médias, il insiste sur le fait que la préservation de l'environnement est une responsabilité collective qui concerne toutes les couches sociales. L'organisation met en garde contre certaines pratiques dangereuses, notamment l'exposition ou la vente d'aliments à proximité des déchets. Selon elle, ces comportements favorisent la propagation des maladies telles que les infections, les maladies diarrhéiques et les choléras, aggravées par l'insalubrité du milieu de vie, conclut cabaretactu.info.
Et c'est par cette note que nous mettons un point final à cette session d'information matinale sur Radio Mindeléo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi avec attention. Mais si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici les rappels des titres. Les déplacés qui fuient les combats entre les troupes de l'AFC M23 et les Ouazalendo, notamment dans plusieurs villages des hauts plateaux du territoire de Calais, vivent les calvaires sur la route, tout comme dans les zones d'accueil comme Anyamukubi, nous a dit l'un d'eux que vous avez entendu dans cette édition du journal. Et la province du Sud Kivu a enregistré 4607 cas de choléra, dont 67 décès, au cours du premier trimestre de l'année 2026, selon la division provinciale de la santé DPS. La zone de santé des filles y vient en tête avec 1447 cas, à en croire les chiffres rendus publics. Et en sport, championnat de la Lina Foot 2e division, l'OC Mungano finit la manche aller sur le podium, juste derrière l'US Okozaki de Butembo, après les forfaits infligés à ma commune de Lubero suite à une plainte déposée par les Chalalilé autour de la non-qualification d'un joueur. La mise en onde était celle d'Alain Zar à la présentation Héritier Boroto. Excellente matinée et bonne humeur chez vous en compagnie des programmes de Radio Mindeléo. Tout à l'heure, cette même édition en version Swahili avec notre confrère Alain Kabika. Retrouvez-la donc sur les www.radiomindeleo.org. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout de vos proches. Chaque jour est une vie. Au revoir.